BFM Business présente BFM Climat, l'émission. Les entreprises face aux défis climatiques. Thomas Asportas.
Bonjour à tous, bienvenue dans BFM Climat, émission spéciale aujourd'hui depuis le musée des arts et métiers à Paris où se déroule jusqu'à ce dimanche une exposition consacrée à l'empreinte carbone et qui nous accueille aussi aujourd'hui pour parler du nouveau grand projet du Shift Project de Jean-Marc Jancovici. Bonjour Michel-Antoine.
Bonjour.
Vous êtes la directrice du musée donc des arts et métiers, merci beaucoup de nous accueillir chez vous dans cette magnifique chapelle. Pour celles et ceux qui nous regardent à la télévision, vous pouvez voir plein de magnifiques objets symboliques des révolution industrielle. Et à vos côtés, Jean-Marc Jancovici, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là aujourd'hui dans BFM Climat, président donc du Shift Project. Vous lancez, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui dans l'émission, votre nouvelle grande campagne, votre nouveau grand programme d'action en vue de l'élection présidentielle de 2027. On va évidemment largement en parler dans l'émission aujourd'hui. D'abord, juste une question pour planter le décor, c'est le cas de le dire, et pour que tout le monde comprenne bien qu'est-ce qu'on fait là, justement. Pourquoi, Jean-Marc Jancovici, vous avez voulu à ce qu'on fasse cette interview tous les trois au Musée des Arts et Métiers?
En fait, le Musée des Arts et Métiers, il rassemble un certain nombre d'objets qui sont emblématiques de ce qu'a été le développement industriel dans le monde d'avant, j'ai envie de dire. Celui qui a été favorisé par l'avènement des combustibles fossiles. Et nous, on a l'immodeste tâche d'essayer d'imaginer à quoi pourrait ressembler une civilisation industrielle de l'après, combustibles fossiles. Ce qui est évidemment un énorme défi parce qu'il s'agit d'essayer de garder une bonne partie des acquis qui aujourd'hui nous rendent la vie si douce, parce que peu de gens ont envie de se débarrasser de leur frigo, de leur machine à laver ou du train, tout
ou
en se
voiture,
débarrassant.
Ou leurs avions,
les avions, c'est bah, plus facile, mais bon. Si vous aviez à choisir entre l'avion et la machine à laver, je ne sais pas ce que vous choisiriez.
C'est vrai.
Mais tout en essayant de se débarrasser des combustibles fossiles qui leur ont donné naissance. Voilà, donc c'est ça le défi qu'on s'est donné.
Ouais, c'est tout un symbole, Michel-Antoine. C'est-à-dire qu'effectivement, là, ce sont des progrès techniques extraordinaires qui sont au cœur de notre quotidien. Et en même temps, effectivement, on est là pour parler du monde d'après.
Oui, et c'est d'ailleurs ce que le musée fait. On est aussi dans cette aventure de cette petite émission pour parler de l'exposition Empreinte Carbone, parce que le musée, bien sûr, c'est un musée d'histoire des techniques, mais c'est aussi un musée d'histoire des techniques qui se projette vers le futur et qui essaie d'envisager comment cette lecture critique de notre passé technique peut nous aider à penser notre futur, penser l'après, qui ne sera pas anti-technique, qui sera au contraire d'autres techniques qui permettront de nous relier au monde.
Bon, et on va évidemment parler de votre exposition Empreinte Carbone qui se tient jusqu'à dimanche. Jean-Marc Jancovici, d'abord, donc avec vous, votre slogan, décarbonons la France. Votre campagne, votre programme pour 2027, expliquez-nous ce que vous voulez faire.
Alors, on avait déjà fait quelque chose qui ressemblait un petit peu au moment de la dernière élection présidentielle. Ouais. On avait fait un travail de synthèse, parce qu'en fait, une bonne partie du travail avait été fait avant, qui s'appelait le plan de transformation de l'économie française.
Tout à fait.
Et le Shift Project, pour ça, avait déjà fait une première campagne de financement participatif. Alors, le mode de financement classique du Shift Project, c'est d'aller chercher l'argent auprès des entreprises. Mmh. On est une association d'entreprises et on y tient, parce que nous considérons qu'il faut aller chercher des alliés parmi les gens qui vont devoir faire. Mais comme on a chroniquement plus d'idées que de moyens, là c'est pareil, on a décidé de redonner un coup d'accélérateur en vue de la prochaine campagne présidentielle. Alors pourquoi la campagne présidentielle? Parce que c'est classiquement dans notre pays un moment où on débat des grandes idées sur ce que doit faire le pouvoir politique. Voilà. Donc on a décidé de se mettre en ordre de bataille pour cette prochaine échéance et de redonner un coup d'accélérateur en faisant un certain nombre de choses qu'on n'avait pas eu le temps de faire jusqu'à maintenant. Pour faire ces choses, on a besoin de gens. Une partie de ces gens demande à être payés, c'est totalement incroyable, mais c'est comme ça. Et donc pour avoir les moyens de payer les gens, nous avons besoin d'argent et on a besoin de plus d'argent que ce que nos membres actuels sont capables de nous donner. Et le moyen le plus rapide d'avoir cet argent supplémentaire, c'est une campagne de financement participatif.
Et vous voulez lever combien d'argent alors?
Alors on a l'objectif de lever plus d'1 million d'euros. Lors de la dernière campagne, on avait levé 500 000 d'euros.
D'accord.
En étant parti sur des objectifs beaucoup plus modestes du reste au début, donc ça avait été une excellente surprise. Et là, on pense qu'on peut lever plus entre 1 et 2 millions d'euros. C'est notre objectif. Alors, ça fait beaucoup d'argent pour une association comme nous. C'est une somme qui
Je ne sais pas si vous pouvez le dire, mais le budget de votre think tank, du Shift,
On est entre 2,5 et 3 millions d'euros par an.
Ah oui, ok. Donc c'est presque... Vous avez presque doublé votre budget, là.
Pas tout à fait quand même, mais ça reste très conséquent au regard de ce qu'est notre association. C'est évidemment très conséquent au regard du patrimoine de beaucoup de gens qui nous regardent. Par contre, c'est très peu d'argent au regard des... c'est très peu d'argent au regard des enjeux.
Mmh. Oui, aussi. Bien voilà, sûr.
S'il s'agit de décarboner un PIB de 2400 milliards d'euros, ou 2 millions, c'est pas beaucoup.
Ouais, non, tout à fait, tout à fait. Et alors, vous le disiez, donc, lever deux fois plus d'argent que la dernière fois. En 2022, vous aviez déjà une certaine notoriété. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus connu. Et en même temps, à l'époque, il y avait une grande vague verte, une grosse vague verte sur laquelle vous aviez pu surfer. C'est plus le cas aujourd'hui. Vous pensez que ça va être plus dur cette fois?
Alors, on pense qu'il reste une très large fraction. Alors, même pas il reste. Je pense qu'il y a une très large fraction de la population qui est toujours très intéressée par ces enjeux. Moi, je me méfie beaucoup de la récupération politique ou de la récupération médiatique qui peut être faite de l'écume des vagues. Mmh. Mais quand vous regardez la vague, en fait, elle n'a pas beaucoup changé ces dernières années. Vous avez toujours les deux tiers des Français, un peu plus des deux tiers des Français, qui pensent que le changement climatique est bien d'origine humaine, que c'est bien une menace importante, que c'est, etc. Et quand vous regardez les sondages d'opinion, ça ne fluctue pas si vite que ça. Mmh. Par ailleurs, il y a une préoccupation nouvelle qui est en train de se faire jour en ce moment, qui est la question de la souveraineté. Or, il faut rappeler que le pays importe 99% de son pétrole, 100% de son gaz et 100% de son charbon.
Ouais.
Et même si je passe
et
à l'échelle...
Et tout ça, rappelez-moi, pardon, dans le mix énergétique, ça pèse combien ?
Et ça
on
pèse,
en a besoin, mais c'est...
Ça pèse à peu près les deux tiers de l'énergie qu'on consomme en France et ça pèse les trois quarts, les combustibles fossiles, de ce qui vous permet de vivre comme aujourd'hui. Parce D'accord. que vous avez aussi de l'énergie qui est incluse dans la veste qui n'a probablement pas été fabriquée en France, le micro qui n'a sûrement pas été fabriqué en France, la caméra qui nous filme qui n'a pas été fabriquée en France, la voiture qui vous transporte qui, pour une bonne partie, n'a pas été fabriquée en France, etc. Donc si on regarde la totalité de l'énergie qui permet à un Français de vivre comme il vit aujourd'hui, les trois quarts sont d'origine fossile.
Ouais.
Donc la question de la souveraineté qui aujourd'hui est devenue une question importante dans un pays qui importe la totalité de ses combustibles fossiles rejoint la question de la décarbonation.
Et alors est-ce que vous avez, parce que donc on parle des politiques dans tout ça, est-ce que vous avez bon espoir de peser sur leur campagne? Est-ce que vous pensez vraiment que
Le monde politique a un système de fonctionnement extrêmement simple. Ce qui compte, c'est ce que pensent les électeurs.
Ouais.
Donc en fait, peser sur la campagne, ça veut dire réussir à faire entendre une petite voix auprès du corps électoral. Et auprès d'une partie du corps électoral qui nous intéresse beaucoup au Chief Project, qui sont tous les intermédiaires, j'ai envie de dire. C'est-à-dire les gens justement qui passent chez vous, qui sont des décideurs économiques, qui sont des gens du monde académique, qui sont des gens du monde associatif, qui sont des gens du monde syndical. Donc tous ces gens-là nous intéressent énormément parce qu'en fait c'est les relais d'opinion de proximité, j'ai envie de dire. Et c'est ces gens-là qu'on cherche à toucher en premier.
Ouais. Voilà.
C'est ces gens-là qui ont le temps de lire des livres, de s'imprégner de raisonnements qui peuvent être parfois un peu compliqués, etc. Et ces gens-là ont souvent le crédit ou la confiance de leur entourage. On peut dire ce qu'on veut sur les patrons en France. L'essentiel des gens qui travaillent en entreprise font plutôt confiance aux gens qui les dirigent, etc. Et donc, l'idée, c'est par le travail qu'on fait, d'interagir avec ces gens-là. Alors d'interagir au travers de la production qu'on leur livre ou d'interagir au moment où on travaille, parce qu'on travaille toujours en accord avec les gens qui vont devoir faire. Donc, au moment même où on travaille, en fait, on discute avec plein de gens.
Oui, bien sûr, c'est pas vous tout seul.
De ce qu'on peut proposer, etc.
Avec le terrain,
Et en fait, ce qui se passe au moment de la présidentielle, ça n'est que la concrétisation de tout ce qui s'est passé avant. Donc ce qui est important, c'est aussi ce qui se passe avant en continu. Et c'est ça qu'on a l'intention d'augmenter, ou j'ai envie de dire d'amplifier, avec les moyens supplémentaires qu'on cherche à avoir.
Et là, vous y mettez 2 ans avant. Et alors, on va tout de suite parler maintenant de l'exposition, parce qu'on parle beaucoup des politiques, on va aussi parler des Français. D'un mot juste, vous, ça vous intéresserait pas de porter personnellement ce projet-là? La politique, ça vous intéresse pas?
Alors, chacun son métier. Moi, je considère que je suis déjà dans le débat politique en étant dans le débat public. Du reste, vous y êtes aussi d'une certaine manière. C'est-à-dire tous les gens qui sont dans le débat public font partie d'une façon, d'une certaine manière, du débat politique. Maintenant, si la question c'est est-ce que j'ambitionne une carrière d'élu, la réponse est non. Je considère que c'est pas ma place. Et puis il y a des tas de domaines dans lesquels j'ai pas d'avis. Moi, j'en ai à titre personnel, mais le Chief Project n'a pas travaillé sur l'âge de la retraite. Il n'a pas travaillé sur est-ce qu'il faut ou pas des caméras de vidéosurveillance à Fréjus et à Cannes. Donc, comme on n'a pas travaillé sur ces sujets-là, on se cantonne à notre domaine, alors qui couvre déjà énormément d'aspects. En particulier, notre domaine, comme il concerne les ressources et l'énergie, couvre la totalité de la vie économique. Mais la vie tout court, c'est pas que de la vie économique.
Alors, la vie tout court, les Français, justement, Michel-Antoine, votre musée, votre exposition, vous voyez passer beaucoup de gens ici. Quels sont les résultats de cette exposition empreinte carbone? Qu'est-ce que vous avez vu, puisque l'exposition a démarré à l'automne dernier, elle est prolongée là jusqu'à ce dimanche. Qu'est-ce que vous avez observé dans votre musée à l'occasion de cette exposition? Parce que c'est la première fois que vous faites une expo consacrée au carbone.
C'est même la première fois qu'on fait une exposition qui soit à ce point engagée dans des enjeux contemporains, et on va d'ailleurs continuer dans cette voie-là. Ce qu'on constate d'abord, c'est qu'on a réussi à s'adresser à la fois aux convaincus, bien sûr, mais aussi aux non convaincus. L'avantage d'être dans un musée comme celui-ci, c'est que on attire aussi du grand public qui ne vient pas pour l'exposition, qui vient pour le lieu, qui vient pour d'autres objets, et puis qui est attiré par l'exposition. Et donc ça, c'est un assez grand spectre de public, et je pense que ça, c'est très intéressant, et c'est aussi très important par rapport aux activités de Shift et à cette volonté de convaincre les lecteurs. On s'est aussi aperçu
pour que les gens se rendent compte, combien de gens viennent par an dans votre musée?
270 000 l'année dernière, et d'accord, on est en croissance. Donc c'est quand même un musée qui est un musée moyen pour Paris.
Ouais.
Et l'exposition.
Enfin, ça fait quand même du monde, ouais. Et l'exposition en elle-même, elle a fait venir.
L'exposition a attiré 80 000 visiteurs. En tout cas, 80 000 personnes l'ont visité, ouais, que ce soit en groupe ou pas en groupe. Et ce qui a très bien marché dans cette exposition, c'est qu'elle n'est pas donneuse de leçons. C'est-à-dire qu'elle n'était pas culpabilisatrice. Elle était simplement factuelle. Alors nous aussi, on travaille avec plein de monde. Donc la difficulté de l'exposition, ça a été vraiment de rassembler toute une série de chiffres convaincants et de trouver des métaphores, de trouver des exemples. Par exemple, quand on parle de l'empreinte carbone, on s'est posé la question dans quel domaine on va parler de l'empreinte carbone pour que ça parle à tout le monde. On va pas parler des voyages parce que l'aviation, ça concerne quand même qu'une partie de la population. On a décidé de parler de la consommation alimentaire, parce que là, vraiment, tout le monde mange. Et donc, on a réussi, je crois, à être assez parlant pour les visiteurs. Et puis, autre bénéfice, je dois dire que ça a été un grand plaisir, c'était de voir que des comités RSE d'entreprises, d'institutions culturelles, sont venus dans l'exposition pour se former à la question d'empreinte carbone.
D'accord.
Et donc, on a vraiment, je crois, touché à un public très, très large, et c'est vraiment notre mission.
Et ces 80 000 personnes, le chiffre que vous nous donnez là, c'est quoi? C'est dans la moyenne de vos expositions? C'est plus que la moyenne, justement?
C'est un peu mieux que
c'est un peu mieux que la moyenne. D'accord.
Oui,
ok.
Donc, c'est
estimable
d'avoir
rencontré votre public. Et alors, vous, Jean-Marc Jancovici, avec votre campagne, vous espérez toucher combien de personnes? Ce million d'euros au moins, ça représente combien de Français derrière vous?
La dernière fois, le don moyen était aux alentours de 70 euros.
Ouais.
Donc, vous voyez, vous faites le calcul, ça veut dire qu'il faut 20 000 donateurs, en gros.
Bon, c'est jouable. Enfin, ça fait du monde, mais c'est... Ouais.
On espère.
Ouais, ouais.
Après, les gens qui sont touchés, au sens où ils entendront parler de cette campagne, ça sera beaucoup plus.
Oui, bah, bien sûr. Bien sûr.
Mais, voilà.
Et, donc, ce million d'euros, c'est pour... Donc, vous disiez, évidemment, vous avez besoin d'embaucher, les gens ne vont pas travailler gratuitement. C'est pour donc, vraiment staffer vos équipes au Shift, c'est pour sortir un nouveau livre. Parce que la dernière fois, le livre avait beaucoup fait parler.
Alors, la dernière fois, le livre avait été un énorme succès de librairie,
ouais,
et j'ai été le premier surpris. Parce que,
avec Marianne qui se retrousse les manches, pour ceux qui ont...
Marianne qui se retrousse les manches, absolument. En fait, au moment où on avait imprimé le livre, moi, j'étais persuadé qu'on allait en vendre 5 000.
Okay.
Le livre, on l'a fait imprimer tout simplement parce qu'on l'avait promis à tous les gens qui ont donné de l'argent.
Ah oui.
À partir d'un certain niveau de don, on leur promet.
Okay. Ouais.
Et en fait, le livre était déjà payé, j'ai envie de dire, par les quelques milliers de personnes à qui on devait de toute façon l'offrir. Mais il s'est quand même retrouvé en librairie et on en a vendu plus de 110 000.
Ok.
Ce qui, pour un livre sans auteur, parce qu'il n'y avait pas d'auteur, hein, c'était The Shift Project l'auteur.
Ouais, ouais.
Un essai sans auteur, on est arrivé deuxième derrière Cyrulnik. Oui, absolument, l'année de la sortie du livre, et je dois dire que ça a été une énorme surprise pour moi, évidemment très positive. Alors cette fois-ci, je ne sais pas combien on en vendra. C'est pas...
Mais donc vous allez sortir un nouveau
livre. Oui, on va
vous sortir
un livre. Alors le livre, il a comme intérêt que c'est un, comment dire, c'est une accroche médiatique. C'est-à-dire au moment où on sort le livre, c'est l'occasion.
Ouais, c'est comme ça que vous faites inviter.
Exactement, on se fait inviter et c'est l'occasion de parler du fond. Mais en fait, le livre, il n'est que l'aboutissement du travail qu'on va faire.
Ouais, ouais.
Ce qui compte vraiment, c'est ce qui va se passer avant.
Ouais. Et donc là, ça va être tout un tas de, justement, de publications, de rapports qui vont être accessibles sur votre site.
Oui,
le livre, c'est la fin, mais le...
Alors, tout ce qu'on fait est toujours en libre accès.
Ouais.
Et par ailleurs, on a un mode de travail qui combine deux caractéristiques. La première, c'est qu'on fait toujours ce qu'on appelle un rapport intermédiaire. Un peu comme les consultations de la Commission européenne, vous savez.
Ouais, ouais.
On pense à ça, dites-nous ce que vous en pensez.
Okay.
Et c'est l'occasion de se faire à la fois jeter des tomates pourries par les gens qui sont vraiment pas contents. Donc en fait, ils ont un moment où ils peuvent nous dire, nous, ça nous va pas. Mais ce qui nous va très bien. Parce que du coup, on sait quelles sont les objections à ce qu'on propose. Et puis, c'est également l'occasion d'avoir des améliorations, des suggestions, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Et la deuxième méthode qu'on a, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'on travaille toujours en association avec des gens qui vont devoir faire. Donc, quand on fait un rapport sur le bâtiment, on travaille avec des professionnels du bâtiment, pas tous les professionnels du bâtiment, mais des gens de bonne volonté au sein du secteur. Parce que eux,
y compris les grands groupes.
Alors, ça peut être des gens qui viennent de grands groupes, mais ils interviennent jamais sous leur couleur. En fait, c'est qu'on travaille avec des individus. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'expertise. C'est les gens qui connaissent bien le secteur et qui sont capables de nous dire ça, c'est pertinent, ça, c'est pas pertinent pour Dieu sait quelle raison. On sait pas faire. Ça va créer tel type de dépendance dont on veut pas. Il y a pas assez de monde pour s'en occuper. Ils peuvent nous raconter, etc. Et les gens qui interviennent, ils n'interviennent jamais au nom de leur employeur.
D'accord.
C'est dans cette enceinte-là. Ils sont toujours sous leur propre couleur.
Ouais.
Et ce qui nous intéresse, c'est pas tant qu'ils défendent leur employeur ou qu'ils le défendent pas du reste, c'est leur expertise technique propre.
Ouais, ouais. Donc un nouveau rapport, un nouveau livre et une nouvelle BD peut-être, parce que alors vous parliez du succès du livre Chaudy Jacob 110 000, très gros succès évidemment en soi vu le sujet. La BD là n'en parlons pas, c'était le plus gros succès en librairie en 2022 avec Christophe Lain. Il y en aurait une autre dans les tuyaux de
le
BD.
Monde sans fin.
Alors ouais, le monde sans fin, pardon.
On aimerait, mais pour le moment on n'a pas encore trouvé le temps de mettre l'enfant en route.
D'accord. Ah mais donc c'est un projet qui est dans les tuyaux, qui est genre dans votre
tête. On y réfléchit.
Vous y réfléchissez. Idem avec Christophe Lain, ouais.
Oui, oui, bien sûr.
Ok. Bon, eh ben, merci pour la petite info. Rappelez-nous combien vous en aviez vendu à l'époque?
Un peu plus d'un million.
Ouais, assez dingue, assez dingue. Et Michel Antoine. Alors justement, enfin, je parle aussi de la BD parce que ça rejoint quelque part un petit peu aussi ce que vous faites dans l'expo où il y a pas mal d'images, pas mal de couleurs, enfin, de mise en image de la transition. Ce que vous faites un peu aussi.
Oui, j'allais poser la question et bientôt une exposition.
Alors, il y en a une. La BD a donné lieu à une exposition de l'Institut français, un peu partout dans le monde.
Okay.
Donc, il y a une exposition itinérante là, ce qui me vaut tous les trois mois de refuser un voyage en avion parce qu'on m'invite au Mexique, Turquie, au Japon, je sais pas où encore.
Sinon, vous passerez votre vie sur un bateau à faire le tour du monde, à aller d'expo en expo. Ouais.
Bah, écoutez, si je n'avais pas d'autres occupations,
ce serait chouette. Ça serait pas mal. Michel-Antoine.
Sachant que oui, la grande difficulté, c'est de mettre des images sur des concepts et sur des chiffres. Ouais. Et c'est ce sur quoi on bute à chaque fois dans des sujets un peu abstraits comme l'empreinte carbone. Et donc nous, on a compensé, on n'a pas fait des dessins, mais on a évidemment la collection. Qui est un reflet, bien entendu, de cette période d'industrialisation et d'extractivisme, mais pas que. Mmh. Et donc, l'objet a une puissance d'attraction très grande sur le visiteur, et c'est ça qui nous permet de construire un récit. Donc, de nouveau, avec tous nos experts, construire un récit, mais qui carnet et qui soit ancré dans une histoire que nos visiteurs connaissent.
Et qu'est-ce que vous avez entendu justement auprès du public de l'exposition? Qu'est-ce que les gens ont pu dire? Quel résultat a eu cette exposition? Vous avez senti, je sais pas, des déclics ou des... Enfin oui, qu'est-ce que vous avez observé?
Alors, il y a des déclics à différents niveaux. Il y a eu d'abord un déclic en interne à l'institution, en interne au musée, où faire cette exposition a changé nos pratiques. On était déjà dans une ébauche de réflexion sur l'éco-conception des expositions.
D'accord.
Là, c'est complètement dans nos manières de faire, avec des bilans carbone qui sont faits systématiquement, et on regarde les trajectoires qu'on peut avoir en termes de réduction d'empreintes écologiques de nos expositions. On va faire la même chose pour nos pratiques de conservation et nos pratiques d'envoi de collection, puisque notre collection est très demandée à l'international, et comment on l'envoie, dans quel emballage, enfin, vraiment la réflexion a percolé dans l'institution, donc ça c'est extrêmement important. Ouais. Et on voit aussi des visiteurs qui en fait ont eu des effets de surprise. Notamment, je parlais tout à l'heure de l'alimentation, des effets de surprise sur le véritable bilan carbone, qui n'est pas que la production de leur nourriture, mais aussi le transport, le temps de transport, mais le transport en avion, le transport en bateau. Mmh. Donc, éclairer, donner des clés de compréhension, mais assez fines, chiffrées, objectivées. On a vu des visiteurs vraiment surpris avec des volontés de transformation, et la fin de l'exposition propose aux visiteurs de se positionner, et on voit vraiment qu'il y a une évolution. D'accord. Dans leur perception.
Et alors, vous avez employé le mot-clé transformation, qui était celui de votre première campagne, plan transformation de l'économie française. D'ailleurs, ça va s'appeler pareil, plan transformation de l'économie française 2, ou c'était trop long?
Cette fois-ci, on a dit qu'on allait décarboner le pays.
Bah, décarboner le pays. Bon, mais qu'est-ce que donc vous retentez votre chance? Enfin, vous relancez là-dedans 5 ans après. Qu'est-ce qui a été transformé la dernière fois? Quels sont les résultats pour vous de votre première campagne?
Alors, les résultats de la première campagne, c'est que je pense qu'on a fait passer dans une partie chez une partie de nos interlocuteurs, la notion de planification.
Ouais.
Ça s'est passé pour partie dans l'administration, puisqu'il y a même eu un secrétariat général à la planification qui a été créé.
Ouais.
Mais je pense que c'est surtout passé du côté économique également.
C'est-à-dire que les acteurs économiques se sont souvenus, parce que en fait ça a très longtemps été le cas hein, dans ce pays, que quand on était en univers incertain, et ben finalement d'avoir un cadre général qui serve de repère, c'était quand même une bonne idée. Donc ça c'est quelque chose, c'est une... Avant, vous savez, enfin, on sort quand même d'une époque qui est qualifiée de très libérale. On va supprimer toutes les règles, tous les cadres, tous les machins. Et les acteurs.
Ça revient un peu.
Et les acteurs du marché se dépatouilleront par eux-mêmes. Et en fait, je pense. Alors, ça revient un peu.
Autour du climat, hein. Tout ce qui est CSRD, CS3D.
Oui, enfin.
Le monde des affaires a l'air assez content quand justement on leur enlève des contraintes.
Oui, j'attends de voir. Parce que là, en l'occurrence, la planification d'ensemble, c'est pas juste une contrainte, c'est une direction aussi. Voilà. Et en ce qui concerne la CSRD, moi, je pense qu'on est dans le bouc émissaire commode.
Ouais, ouais.
C'est juste que comme le contexte économique est pas terrible, les gens s'imaginent naïvement qu'en leur enlevant un rapport environnemental, tout d'un coup, les clients vont affluer à la porte.
Ouais.
Je demande à voir. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Pour le moment, ce dont je suis absolument certain, c'est qu'il y a quand même une partie du monde économique qui est demandeur d'un cadre d'ensemble qui donne de la visibilité, parce que quand vous n'avez pas de visibilité, vous ne faites pas d'investissement, vous ne vous réorientez pas, etc. Et ça, je pense qu'on a contribué à faire passer cette idée-là
De planification.
Oui, dans le débat public.
Et en termes de décarbonation, puisque c'est ça le but du jeu, est-ce qu'il y a des secteurs qui ont bougé plus que d'autres?
Par ailleurs, il y a un certain nombre de secteurs dans lesquels on a vu des choses concrètes se produire après qu'on ait produit des rapports. Alors il y en a un, et c'est, en particulier c'est le numérique.
Ouais. On en parlait avec Maxime Effouy du CIF justement il y a pas longtemps.
En 2018, on a sorti un rapport qui s'appelait Pour une sobriété numérique. Et derrière, il y a un sénateur qui a fait une loi sur la sobriété numérique et il y a un certain nombre d'instances qui ont repris le mouvement. L'ARCEP, c'en est l'ARCOM, etc. L'ADEME, enfin tout, etc. Et maintenant, il y a des choses qui commencent à avancer. Alors on va pas dire qu'on en revendique la totalité de la paternité, mais je pense qu'on a contribué à accélérer le tempo. Voilà. Y a un autre domaine dans lequel on a contribué à accélérer le tempo. Alors vous avez trouvé que c'est un peu. C'est la santé. On a également sorti un rapport sur l'empreinte carbone de la santé il y a quelques années, qui a fait un peu de bruit dans ce domaine-là. Il n'a pas fait beaucoup de bruit en dehors, mais dans ce domaine-là. Et là aussi, on a contribué à accélérer le processus. C'est-à-dire que maintenant, il y a un certain nombre d'établissements de santé qui commencent à s'emparer du problème, etc. Voilà, je pourrais vous donner d'autres exemples, mais globalement, dans les secteurs dans lesquels on a travaillé, souvent, il en reste quelque chose derrière en termes de direction qui commence à être prise par un certain nombre de gens à l'intérieur du secteur.
Et cette fois-ci, donc en 2025, pour 2027, qu'est-ce que vous voulez faire bouger en priorité ?
Ah ben tout. À partir du moment où on fait un plan d'ensemble pour le pays, il n'y a pas un secteur dont on puisse dire, vous savez, c'est quand si vous arrivez chez le chirurgien et que vous dites que vous avez 20 organes vitaux en vrac, il va pas et qu'il vous dit, c'est lequel le premier que je vous sauve? Vous allez dire tous, sinon, voilà. Donc dans la décarbonation,
plus en vrac que d'autres, il n'y a pas des urgences où il faut plus urgence.
Alors l'urgence, elle est quelque part dans nos cervelles. L'urgence, elle est dans le fait d'accepter que dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, quand vous regardez bien, c'est la meilleure option qu'on ait. Voilà. J'ai envie de dire, c'est ça, l'urgence. Mais après, comme chacun voit midi à sa porte, c'est important d'être capable de décliner cette idée très générale dans des choses qui parlent en fonction du secteur dans lequel on est. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on multiplie les travaux sectoriels. C'est parce que si on fait un truc très général, ça donne pas d'idée à personne, et personne n'est capable de passer à l'action.
Et pourtant, donc, vous le dites, hein, dans ce plan, c'est un peu du clé en main. C'est-à-dire que vous regardez secteur par secteur, qu'est-ce qu'il faudrait faire?
C'est du clé en main. C'est une proposition.
Ouais. Oui, non, mais quelque chose de très détaillé, de très concret, de très pragmatique. Et on voit bien quand même qu'il y a des secteurs qui n'avancent pas aussi vite qu'il le faudrait. Comment est-ce que vous expliquez ça ?
Alors, tout dépend de ce qu'on appelle qu'il le faudrait.
Si on veut respecter, voilà, décarbonation, justement, décarboner la France en 2050, il faudrait aller deux fois plus vite.
En fait, les secteurs qui avancent sont toujours ceux qui ont facile. Vous savez, dans le domaine des entreprises, vous êtes bien placé pour le savoir, on a la stratégie de ses actifs. Donc, il y a les secteurs qui avancent le plus vite, c'est ceux qui se découvrent en regardant bien. Des possibilités de reconversion faciles.
Ouais.
Les secteurs qui comprennent qu'ils n'auront pas de possibilités de reconversion facile sont toujours des secteurs qui traînent beaucoup plus les pieds. Alors, je vais vous prendre un exemple de secteur emblématique, qui en plus a sûrement sa place dans ce musée, et qui par ailleurs fait partie des réussites technologiques françaises, qui est l'aéronautique.
Ouais.
Bon. L'aéronautique, faire voler des avions sans pétrole, ça va être extrêmement difficile.
Ouais, on voit bien. Ouais.
D'accord. Donc c'est pour des raisons physiques. C'est pas parce que les gens sont de mauvaise volonté dans ce secteur. C'est juste pour des raisons physiques, parce que là, en termes de densité énergétique par unité de volume, vous avez rien de mieux que le pétrole. Et en termes de densité énergétique par unité de poids, c'est pas mal non plus. Donc pour faire voler un plus lourd que l'air, le pétrole, vous avez pas grand chose. Les carburants liquides, vous avez pas grand chose de mieux.
Et donc ce secteur-là, comme il voit bien que c'est très compliqué d'avoir des alternatives techniques crédibles, viables, ils traînent les pieds, voilà. Alors que dans d'autres domaines dans lesquels c'est beaucoup plus facile, prenons l'exemple de la construction. Dans la construction, vous pouvez remplacer le ciment par du bois, vous pouvez remplacer, enfin, vous avez plein d'alternatives techniques qui existent, et donc les gens s'y mettent, tout simplement, parce que ils voient bien ce qu'ils peuvent faire à la place.
Ça coûte plus cher aussi, hein, mais ça, c'est un autre sujet.
Oui,
c'est
alors tout va coûter plus cher dans le monde décarboné, tout simplement parce que le pétrole a rendu tout moins cher.
Ouais.
Voilà. Mais sauf que le pétrole est épuisable, donc il va bien falloir se faire une raison.
Et toute dernière question, parce qu'on arrive déjà au terme de cette émission, décarboner la France, objectif 2050, c'est votre objectif, mais au fond de vous-même, vous y croyez? Ou il faudrait un petit exploit, un petit miracle?
Alors, je pourrais vous faire une réponse pirouette qui est que je serais probablement plus là pour le voir.
Vous sous-estimez.
Plus là pour le voir.
Ouais.
Non, il faut y croire, parce que de toute façon, quoi qu'il advienne, il faut y croire. Vous savez, la personne qui s'aligne au départ d'un 100 mètres, il n'est pas sûr de gagner, mais en attendant, s'il y croit pas, il est sûr de perdre. Donc nous, c'est exactement pareil. Je ne sais pas à quoi ressemblera le monde en 2050, et la seule certitude que j'ai, c'est probablement ni à ce que vous imaginez, ni à ce que j'imagine.
Mmh.
Bon. Mais par contre, ce que je sais, c'est que si on n'essaye pas, on n'a aucune chance d'y arriver, et que le bénéfice d'essayer est de toute façon réel. Donc il faut essayer.
Bon, le mot de la fin pour vous, Michel-Antoine, merci encore de nous avoir accueillis dans votre musée. En résumé de tout ce qu'on vient de se dire, est-ce que vous allez devenir justement le musée du climat? Est-ce que c'est ça un peu le sens, l'avenir de votre musée?
Nous allons être un musée de la trajectoire qu'il va falloir parcourir pour être un monde décarboné.
Ok, bon, eh ben c'est un peu plus clair comme slogan, chacun le vôtre. Merci, et ils sont cohérents. Merci, merci infiniment à tous les deux. Merci encore Michel-Antoine de nous avoir accueillis ici au Musée des Arts et Métiers. Merci à vous Jean-Marc Jancovici, président du Chiffre Project. Et donc, bonne chance pour votre campagne Décarbonons la France. Merci, et puis merci évidemment à vous toutes et tous de nous avoir suivis dans BFM Climat. On se retrouve très vite la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À bientôt.
BFM Climat, l'émission sur BFM Business.